Maxime Dumay, bonjour.
Bonjour, Madame Paquette.
Merci d'être là. Maxime, vous êtes, je le disais tout à l'heure en blague, là, avant que l'on ouvre les micros, vous avez un long titre, dont celui de Programme et investissement en cancer du sein. Là. Ça va dans votre titre. Et en même temps, ce que l'on peut lire, c'est que depuis 1986, le taux de mortalité lié au cancer du sein a diminué de 43 %. Donc, à quelque part, ça vaut la peine d'investir pour la prévention et de divulguer de l'information autour de ce cancer-là?
Oui, ben il y a tout un volet de mon travail qui n'est pas inclus dans mon titre, qui est promotion de la santé. Donc, on parle de réduction de risque et tout ça. Effectivement, il y a des investissements qui ont eu un impact concret, mesurable sur le taux de mortalité, mais aussi on espère avoir un effet sur l'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas de cancer qu'on va trouver par année.
Pour vous, du côté de la Fondation du cancer du sein du Québec, Maxime, la prévention du cancer du sein, ça passe par trois actions bien concrètes.
Quand on parle de prévention, on parle un peu les trois pratiques de santé du sein. Donc, il y a l'observation des seins que les gens peuvent faire eux-mêmes, puis à tout moment. Il n'y a pas de technique particulière. Par le passé, on parlait d'auto-examen des seins qui faisait référence à une technique, à des moments précis. On s'est rendu compte que cette façon-là de le présenter, il y a certaines femmes qui ne se sentaient pas habilitées à le faire, donc qui disaient « Ben moi, je ne suis pas capable, je ne vais pas le faire. » Donc, puis ça a été démontré que ça changeait pas, ça n'avait pas d'effet sur la mortalité. On s'est dit, bon, ben on va changer un petit peu, on va dire aux gens de connaître, on invite les gens à connaître leur corps, donc de savoir qu'est-ce qui est normal pour eux. C'est pas tout le monde qui est fait de la même façon. Donc, en palpant son sein à l'occasion, en regardant aussi s'il y a des changements aussi qui peuvent être soit observés visuellement ou au toucher aussi. Donc, c'est des choses qu'on invite les gens à faire de façon régulière. Il n'y a pas de une fois par mois ou tout ça. Vous le faites quand vous pouvez, pour être en mesure de voir si c'est un changement, de le détecter rapidement puis d'en parler avec son médecin. L'autre chose, c'est l'examen clinique des seins qui est fait par un spécialiste. Donc, ça peut être un médecin, un praticien, une infirmière dans certaines occasions, gynécologue, qui peut, avec son expertise, voir s'il y a une masse, s'il y a quelque chose, un signe qui mériterait d'être investigué un peu plus. Le troisième volet, on parle de mammographie, donc chez les femmes de 50 à 69 ans. Par contre, les trois pratiques, comme vous dites là, ça n'aura pas d'effet sur prévenir ou réduire son risque de cancer du sein. Ça va aider à le détecter ou
une
à dépister
détection
plutôt.
Précoce.
Exactement, voilà. Puis de pouvoir agir plus rapidement et peut-être mettre toutes les chances de son côté.
Donc, peut-être pas pour rectifier le tir, la prévention du cancer, mais peut-être la prévention de la mortalité.
Oui, c'est des outils qu'on a à notre disposition, que les femmes et les hommes aussi. Il faut rappeler que le cancer du sein touche aussi les hommes en moins grande proportion. Il y a environ une cinquantaine de cas par année versus 6 000 nouveaux cas de femmes. Mais quand même, donc les hommes peuvent être touchés. Donc, c'est des outils qui sont à notre portée. Pour réduire son risque, faut faire attention quand on parle de cancer du sein et de prévention dans la mesure où on ne peut pas. Il n'y a rien qu'on peut faire qui va nous assurer qu'on n'aura pas un cancer du sein. Mm-hmm. Malheureusement, ce n'est pas une maladie infectieuse, ce n'est pas un agent externe qu'on peut bloquer. C'est une maladie. Ça vient d'un dérèglement d'une de nos cellules qui peut être causé par différents facteurs aussi. C'est une maladie qu'on dit multifactorielle. Donc, pas juste un événement au niveau biologique ou qui va provoquer l'apparition d'un cancer. Fait qu'on aime mieux parler de réduction de risque. Puis là, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais il y a des choses qui semblent évidentes de l'alimentation, faire de l'exercice, le tabagisme. Mais ce qui est important de souligner, c'est que les données récentes ont démontré qu'il y a un lien vraiment direct. Donc avant, c'était un peu des conseils généraux de santé. Mais là, on connaît qu'il y a les valeurs un peu. Quel comportement va comporter quel risque, puis souvent ça va être en combinaison. Donc, on informe les gens là-dessus, puis on les invite à prendre des saines habitudes de vie.
Il y a beaucoup de mythes aussi autour du cancer du sein. Et puis d'ailleurs, sur le site observationdesseins.org, qui est d'ailleurs très, très bien fait, assez humoristique, on peut apprendre justement mieux s'informer sur ce cancer-là et sur tous les mythes qui y sont encore liés. Entre autres choses, on peut parler d'âge. On pense que si on est toute jeune, 25-30 ans, on est moins touché par le cancer du sein. C'est pas si vrai ça, Maxime Dumay.
En termes, c'est certain que c'est une maladie. Un des facteurs de risque, c'est d'avancer en âge. Donc, plus on vieillit, 80 % des cas se trouvent chez les femmes d'en haut de 50 ans. Donc, on peut dire, ah oui, ça ne concerne pas les jeunes, mais si on retourne la statistique à l'envers, c'est quand même un cas sur cinq qui se présente chez les femmes en bas de 50 ans. C'est aussi la première cause de mortalité par cancer chez les 25 à 49 ans.
Mm-hmm.
Donc, ce n'est pas négligeable. C'est important. Mais c'est certain qu'il faut... L'autre chose aussi, il faut voir... faut pas que les gens... faut trouver l'équilibre entre la sensibilisation aussi puis l'inquiétude. Il y a des jeunes femmes, il y a des études qui ont démontré que si les femmes sont trop inquiètes trop tôt, ils font plus l'observation des seins qui arrivent plus tard dans l'âge. Donc, faut trouver l'équilibre entre connaître son corps, savoir ses risques, connaître son histoire familiale, par exemple, en parler avec son médecin s'il y en a eu, il y a des cas dans notre famille, parce qu'il y a des liens aussi génétiques. Il y a certaines mutations qu'on connaît, les plus connues, BRCA1, BRCA2, on connaît tous l'histoire d'Angelina Jolie, mais il y a d'autres mutations aussi qu'on ne connaît pas nécessairement encore, qu'on n'a pas identifiées, mais qu'on sait qu'il y a des familles dans lesquelles on retrouve un plus grand nombre de cas, même si on n'a pas été capable de savoir de la raison précise. Donc, c'est important, s'il y en a dans notre famille, d'en parler et peut-être de faire un suivi plus particulier dans ce cas-là.
Mais en même temps, il y a plein de bonnes raisons pour commencer à faire l'observation des seins. Et entre autres choses, pour certaines femmes, ça peut les rassurer, Maxime Dumais.
Tout à fait. Il y a des femmes qui nous disent, j'ai peur de le faire une première fois, puis c'est un frein. Puis la première fois qu'elles vont s'observer en profondeur, puis regarder leur tissu, ils vont voir, mais j'ai des... c'est pas un tissu lait, j'ai des glandes, c'est texturé, puis ils vont être inquiètes la première fois, mais plus on le fait, plus on est en mesure de voir, comme je disais plutôt, ce qui est normal pour nous. Puis aussi de le faire à différents moments selon le cycle menstruel, les seins peuvent être plus sensibles aussi, la texture peut changer, donc c'est important de le faire à différents moments, différents contextes, différentes positions aussi, coucher sur le dos, dans la douche. Il y en a qui nous disent avec le savon, quand elles se savonnent, c'est plus facile, elles sentent, ils ont l'impression qu'ils ont une meilleure sensation. Puis autre chose aussi, si on peut se regarder dans différentes positions devant le miroir, il y a des gens pour qui c'est, ça peut être pas toujours possible, mais de demander à son médecin aussi d'exiger un examen clinique des seins.
Mm-hmm. Tout à l'heure, Maxime, vous parliez des changements que l'on peut observer. C'est dans les couleurs, je pense, les textures.
Oui, le principal signe et celui qui est le plus connu, c'est la masse, donc une masse qui est palpable, mais il y a autre chose. Notamment, il y a des types de cancers comme cancer du sein inflammatoire où le cancer va se développer sur la peau. Donc, il peut avoir une rougeur du sein, un gonflement, un changement de forme, aussi un phénomène qu'on appelle l'apparition d'une peau d'orange. Donc, c'est vraiment la peau devient plus dure et ça ressemble véritablement à une orange. Donc, ça, c'est des signes qu'il ne faut pas négliger. Il y a aussi au niveau du mamelon, le mamelon qui peut être inversé, donc le mamelon qui rentre vers l'intérieur, un écoulement aussi qui peut être sanguignolant. Donc, c'est pas quelque chose, c'est pas du pus, c'est pas une infection, c'est vraiment, c'est particulier. S'il y a un autre type d'écoulement, ça peut être un autre problème de sein, mais c'est rarement un cancer. Mais c'est important, surtout, c'est d'en parler quand on observe un de ces signes-là.
Et on court chez le médecin, évidemment. Oui,
on va voir le médecin, on court chez le médecin. On essaie de faire attention. Il y a des gens qui nous appellent, on a une ligne de soutien, les gens nous appellent, des fois ils ont des signes, puis on se dit, écoutez, oui, allez voir votre médecin. Est-ce que ça nécessite d'être à l'urgence? Je pense qu'il faut faire attention. Puis c'est des signes qu'on dit, est-ce que c'est récent? Est-ce que c'est persistant aussi dans le temps? Parce que ça peut arriver, on utilise une nouvelle... nouvelle crème, une lotion pour le corps, puis là, on a une réaction, une rougeur ou quelque chose, puis une semaine après, ça disparaît.
Ah oui, certainement.
Mais c'est parce qu'on entend de toutes les sortes. Mais donc, il faut voir si ça mérite d'être investigué. N'hésitez pas à aller consulter votre médecin.
Maxime, il y a aussi un mythe par rapport au cancer du sein que j'ai entendu très souvent, c'est « Ah, si ça fait mal, c'est pas dangereux. » Est-ce qu'il faut s'y fier?
Non, malheureux. Dans beaucoup de cas, le cancer est pas douloureux, mais je pense que la douleur, même si c'est pas un signe de cancer du sein, c'est pas normal. Puis il faut faire attention. Encore une fois, il faut voir. Puis une autre chose qu'on entend souvent, quand première tempête de neige, les femmes pèlent, ils ont mal aux muscles pectoraux, donc une douleur au sein.
C'est des muscles.
Oui, c'est ça qui sont en dessous. Effectivement, il y a toute la cage thoracique. Ensuite, il y a une couche de muscles. Donc ça peut porter à... On pense qu'on a peut-être un problème sous-jacent, mais mais c'est une douleur en général qui va partir après une journée ou deux. Si on a une douleur au niveau de la peau, une rougeur qui persiste, ça pourrait être un signe de cancer du sein. Mais en général, bon, c'est pas un des signes. Vous avez raison de le mentionner, la douleur n'est pas un des signes. Et puis, au contraire aussi, c'est de dire les gens n'attendaient pas d'avoir mal ou d'aller pour consulter.
Oui, tout ça est un équilibre.
Oui.
On parlait tout à l'heure, Maxime, d'examen clinique. C'est quoi les fréquences? À quelle fréquence on peut en parler à notre spécialiste de la santé?
Idéalement, une fois par année.
Oui.
Donc, mais malheureusement, je sais que c'est pas toutes les femmes ou même les hommes qui ont accès à un médecin de famille avec qui ils peuvent faire un test comme ça. Mais si on peut, si on a la chance d'avoir un examen annuel, ça devrait faire partie des tests qu'on passe.
Et ça, à partir de quel âge?
Les avis varient. Nous, on recommande aux femmes à partir de 25 ans. S'ils ont une histoire familiale, donc s'il y a des facteurs de risque particuliers, ben peut-être commencer un peu plus tôt, d'en parler avec son médecin. Mais autour de 25 ans, je pense que c'est un bon moment pour commencer.
Ouais. Et il y a la mammographie dont on parlait tout à l'heure, qui devient obligatoire à partir de quel âge, donc?
En fait, c'est un test. C'est pas obligatoire,
oui,
mais c'est,
sûr, payé,
c'est, remboursé,
personne,
c'est remboursé par la. Il y a un programme de dépistage qui est offert aux femmes du Québec de 50 à 69 ans, donc aux 2 ans. Avant ça, il peut être offert gratuitement aussi sous prescription d'un médecin, selon les besoins, soit parce qu'il y a un signe qui est observé. Dans ce cas-là, on va parler d'une mammographie de diagnostic et non pas de dépistage.
Mm-hmm.
Mais il peut être aussi offert à des femmes chez qui on soupçonne, qui ont une histoire familiale, par exemple, qui est très... dans laquelle il y a plusieurs cas. On pourrait offrir une mammographie, par exemple, 10 ans avant l'âge, de l'apparition de la maladie chez la mère. C'est souvent quelque chose qui va être fait.
Mm-hmm. Est-ce qu'on sait à la Fondation si l'impact de la mammographie a vraiment réussi à soit prévenir, encore là, parler de prévention, mais réduction du risque. Hein? Ça,
oui.
Je pense que vous préférez. Est-ce qu'on sait si ça a un réel impact?
L'objectif des programmes de dépistage, c'est de réduire la mortalité. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas pour trouver plus de cancer et tout ça. Il y a des études qui sont faites continuellement. Il y en a certaines qui démontrent l'efficacité de la mammographie, pas économique, mais est le plus grand et le plus marqué. Donc, je pense que notre programme est efficace, a démontré son effet pour réduire la mortalité. C'est certain qu'il y a des cancers. Une des problématiques par le dépistage par mammographie, c'est qu'on trouve les cancers qu'on trouve au stade 0, même au stade 1, on n'est pas capable en ce moment de savoir comment ils vont évoluer, de prédire l'évolution avec précision. Donc, est-ce qu'il y a des cancers qu'on traite, qu'on a...
Et ça m'amène à cette question, à savoir quel est le rôle du conjoint, ne serait-ce que dans l'observation des seins ou encore là, dans l'accompagnement de sa conjointe pour une meilleure santé, pour mieux comprendre cette maladie-là?
Je pense que vous l'avez dit en introduction, le cancer, ça touche quand une personne est atteinte, ça touche plus que la personne elle-même. Ça va toucher les proches, ça va toucher les enfants, la famille, tout ça. Puis c'est certain que le conjoint est aux premières loges du soutien qui doit être soutenu, qui doit servir pendant soutenir la femme.
Mm-hmm.
Je pense que d'être présent, puis une des choses d'être juste d'avoir d'offrir un peu le maintien d'une certaine continuité dans le noyau familial quand il y a des enfants, par exemple. Souvent, les femmes nous disent comme ça, ils ont « Ah, mais une chance, mon conjoint était là, il a pu continuer à être présent pour les enfants, sans que la patiente ni pour le conjoint. » Il y a des conjoints qui se sentent un peu mis à l'écart de tout ça. Ça peut être difficile. Puis, je vais en profiter de votre tribune. On a un partenariat avec le réseau Entre Aidants qui fait des capsules web justement pour... pour l'instant, ils sont en anglais, mais c'est pour aider les hommes à...
Mm-hmm.
Le thématique, c'est « When Mr. Fix-It Can't Fix-It » ou des trucs comme ça, des petits trucs pour les hommes. Donc, il y a des ressources qui existent pour aider les conjoints là, de femmes qui ont le cancer du sein.
Et la bonne nouvelle, c'est que les hommes sont de plus en plus sensibilisés au cancer du sein, pas seulement les femmes. Moi, j'ai déjà entendu une amie me dire « Ah, ben c'est mon chum qui m'a trouvé une petite masse. Ça m'a inquiété, évidemment. Je suis allée consulter. Bon, c'était correct, mais quand même, il y a ce souci-là. Et ça, c'est une bonne nouvelle là, si on peut toucher la majorité de la population, bien sûr.
Oui.
En terminant, Maxime, je le disais tout à l'heure, c'est le mois octobre de la sensibilisation au cancer du sein.
Tout au long de l'année. Sinon, il y a ce qu'on appelle nos initiatives communautaires. Donc, c'est les gens, en général la population, qui vont organiser des collectes de fonds dans leur communauté. Sinon, la fondation elle-même, nous organisons un événement le 28 octobre prochain qui s'appelle Rose le soir. C'est un cocktail bénéfice. Oui. Donc, les gens, vous êtes tous conviés à y participer. Mais regardez, dans vos régions respectives, il y a peut-être des initiatives qui sont là. Vous pouvez consulter notre site rubanrose.org. Il y a une liste des activités avec lesquelles on travaille.
Et je pense que c'est important de dire que du côté de la Fondation du cancer du sein du Québec, il y a tout un service aussi. Là, aujourd'hui, on a parlé de réduction de risques beaucoup, puis de sensibilisation, sauf qu'il y a un support aussi aux femmes touchées.
Oui, il y a un service, une ligne de soutien donc qui est offerte aux femmes partout à travers la province. Donc, c'est une ligne sans frais. Il y a un forum de discussion aussi qui est offert sur notre site web, donc pour les femmes qui sont touchées par la maladie spécifiquement, qui peuvent parler entre elles, échanger des trucs, des conseils, du support. Les gens peuvent communiquer avec nous. Il y a de l'information également sur notre site web.
C'est précieux, ça. Maxime Dumais, vous êtes vice-président programme et investissement en cancer du sein de la Fondation du cancer du sein du Québec. Merci beaucoup et bon mois d'octobre.
Merci à vous et observez-vous.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzebois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.